Oui, puisque dans quelques heures, pour la troisième fois, la sonde Cassini va passer entre Saturne et ses anneaux. Une distance microscopique à l'échelle cosmologique, 2000 km à peine dans une orbite qui va conduire la sonde au mois de septembre dans un plongeon kamikaze à l'intérieur de l'atmosphère de la planète géante. C'est donc la fin d'une mission de 20 ans qui nous aura quasiment tout appris sur la sixième planète du système solaire, son nombre exact d'anneaux, leur composition, son nombre exact de satellites, il y en a plus de 60, dont certains pourraient même abriter, qui sait, la vie sous leur croûte de glace. Cassini, le seigneur des anneaux de Saturne, c'est le sujet qui va nous occuper dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour accompagner ce futur grand plongeon de Cassini et analyser ses résultats, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Cécile Ferrari. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes astrophysicienne à l'Institut de physique du Globe à Paris et professeure à l'Université Paris Diderot. Nous avons également le plaisir d'accueillir Athéna Koustenis. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes astrophysicienne, directrice de recherche au laboratoire de recherche spatiale et d'instrumentation en astrophysique à l'Observatoire de Paris-Meudon. Vous pouvez suivre, comme chaque jour, cette émission en direct de Twitter sur le fil de l'émission auquel nous vous enjoignons de vous abonner, @laméthodefc. Pour commencer cette émission, bien on va commencer par un peu de son interstellaire. Alors, chers auditeurs, ne réglez pas votre radio, hein. Vous recevez très bien France Culture. Ce ne sont pas des parasites de réception. Qu'est-ce que c'est que ce son, Athéna Koustenis ?
Alors, ça, c'est des sons que la sonde enregistre pendant que nous traversons, par exemple, les anneaux ou la magnétosphère ou tout autre milieu un petit peu dense autour de Saturne.
Là, en l'occurrence, c'est le dernier enregistrement qui date de la semaine dernière. Et dans cet enregistrement, on entend notamment qu'on n'entend rien ou qu'on n'entend pas autant qu'on aurait souhaité entendre, Cécile Ferrari.
Oui, en fait, les petites particules qu'on s'attendait à croiser ici, en fait, quand elles heurtent la sonde, donc elles font des petits bruits. Et donc là, on n'entend rien, effectivement. Et c'est assez surprenant parce que, bon, on pensait que les anneaux tombaient un peu sur la planète, hein, puisque c'est une manière pour eux de dégager la zone principale. Et en fait, il n'y a rien. Et donc, on a pris des tas de précautions pour pouvoir passer en sécurité. On s'était planqué derrière la grande antenne, bouclier pour traverser le plan. Et puis finalement, on s'aperçoit que on va peut-être pouvoir prendre un peu de largesse par rapport à cette attitude-là et observer.
Oui, en fait, ça n'a pas été aussi effrayant qu'on le pensait, parce que ça me rappelle tout à fait la première fois qu'on est passé à travers les anneaux pour mettre le vaisseau en orbite en 2004, et que là, on était tous terrifiés à l'idée que ces particules puissent vraiment détruire le vaisseau.
Et là, ça faisait beaucoup plus de bruit, écoutez. Là, c'est un enregistrement qui date non pas de 2004, mais en revanche des anneaux extérieurs. Je crois que c'est un enregistrement qui date de décembre 2016, où on entend bien tous ces petits impacts qui sont autant d'impacts de particules, c'est ça ?
Oui, tout à fait. Pour un vaisseau spatial, ça c'est extraordinairement risqué, parce que effectivement, comme Cécile le disait, si quelque chose heurte nos instruments, on ne peut plus rien faire avec. Et nous, on avait eu cette expérience terrifiante au début de la mission, parce que pour se mettre en orbite, il a fallu qu'on passe à travers les anneaux. Ça nous a donné quelques superbes images à l'époque, mais les ingénieurs et les scientifiques qui étaient sur place, on attendait le moment où on aurait fini cette traversée, parce que franchement, risquer la mission dès le départ, c'était quand même grave.
Pourquoi est-ce que c'est si surprenant, Cécile Ferrari, ce vide dans ce tout petit espace, hein, 2000 km, je le répète, à l'échelle cosmologique, c'est rien du tout. On va tout à l'heure redonner un peu les dimensions de Saturne, mais 2000 km, c'est vraiment l'épaisseur quasiment d'un cheveu entre le dernier anneau et le début de l'atmosphère de la planète.
Oui, parce qu'on pensait qu'entre l'anneau D, donc qui est l'anneau le plus intérieur finalement des anneaux principaux et la planète, on devrait avoir un continuum de particules, parce que les petites particules sont non seulement sensibles à la gravitation de la planète, évidemment, mais à des tas d'autres forces électromagnétiques qui les font spiraler sur la planète. Et pour nous, spécialistes des anneaux, en fait, c'est une manière d'éliminer les anneaux, en fait, en les faisant tomber dans la planète. Et donc, on est un peu surpris parce qu'on s'attendait effectivement à ce qu'il y ait vraiment une chute de particules sur la planète qui viderait les anneaux vers l'intérieur, en fait.
Et c'est ce vide, pour le moment, on ne l'explique pas encore très bien, Athéna Koustanis.
Non, il y a plein de choses, d'ailleurs, comme les spécialistes des anneaux vous le diront, qu'on ne comprend pas encore dans ce système. Le Seigneur des Anneaux garde encore plusieurs secrets, parce que même si ça fait des années qu'on les étudie, du sol d'ailleurs aussi, ou avec des missions spatiales, on ne sait toujours pas exactement la masse des anneaux, leur structure sur place.
Composition interne, en fait, parce que justement, le compteur de poussière, en fait, doit analyser la composition chimique des petites particules pour comprendre ce qu'il y a à l'intérieur, en fait, parce qu'on sait qu'elles sont recouvertes de glace d'eau, mais rien ne nous dit que jusqu'au noyau de ces particules on a de la glace. Alors bon, on connaît pas leur densité volumique, c'est-à-dire combien elles sont longues, combien elles sont denses, on n'est pas capable de mesurer ça non plus, donc on a une vraie incertitude sur la composition interne, en fait,
sur la nature de ces particules qui composent.
S'il y a un peu de roche ou s'il y a que de la glace.
Voilà. Pour terminer par un dernier son un peu plus harmonieux que ces bruits un peu ces bruits un peu blancs qu'on entend et qu'a répercuté Cassini. Ce son là est aussi beaucoup plus ancien. Ce sont les émissions radio que Cassini a captées en 2003, alors que la sonde était encore à 2,5 unités astronomiques de Saturne. Une unité astronomique, c'est la distance entre la Terre et le Soleil. Donc Cassini était encore assez loin, mais a capté ces fréquences-là, écoutez. Ce sont des sons effectivement un peu plus harmonieux. Alors ce sont des sons qui ont été beaucoup vraiment énormément modifiés, qui ont été beaucoup très compressés, puisque en 73 secondes de son, en fait, c'est l'équivalent de 27 minutes, et ils ont été ramenés dans le spectre audible, puisque ce sont des ondes qui sont dans un spectre qui n'est normalement pas perceptible par notre oreille. Qu'est-ce que vous pouvez nous redire un mot justement de la nature de cette espèce de mélopée spatiale?
Je pense que ce sont des traceurs, en fait, de la magnétosphère, c'est-à-dire ce sont des particules qui spiralent dans le champ magnétique et qui émettent des fréquences radio, et donc ça nous renseigne sur la structure de la magnétosphère. Et de la magnétosphère, l'intérieur de Saturne, puisqu'on a une grande question sur la structure interne de la planète, autant pour Jupiter que Saturne, c'est vraiment pouvoir sonder le cœur de la planète et savoir s'il y a un petit caillou,
un gros rocher, un gros noyau
ou du gaz dans un état de compression
extrême. Oui. Et c'est ce que Cassini va nous apprendre en partie en plongeant dans sa toute fin de mission Kamikaze vers le centre, à l'intérieur de l'atmosphère de la planète. En
tout cas. Oui, tout à fait. Je voulais rappeler quand même aux éditeurs que la magnétosphère des différentes planètes géantes dans le système solaire, c'est des objets énormes, mais c'est des objets qu'on voit pas. Par conséquent, les gens, ils ont tendance à oublier qu'ils sont là, alors que la magnétosphère, par exemple, de Jupiter, c'est un des objets, les plus grands objets dans le système solaire, si on pouvait la voir. Et que l'interaction entre ces magnétosphères aussi et l'autre soleil, le vent solaire, ce sont des études qui sont extrêmement compliquées, difficiles à comprendre, mais essentielles, comme disait Cécile, pour comprendre, par exemple, l'intérieur de planètes, la structure interne, etc. Et la structure interne de Saturne, c'est un des sujets encore sur la table, parce qu'on ne comprend pas très bien comment est formée cette deuxième plus grande planète dans notre système solaire.
Alors justement, faisons un peu sa carte d'identité, puisque maintenant qu'on l'a entendu, on va essayer d'en parler. Comment est-ce qu'on la définit? Donc c'est la sixième planète du système solaire, la deuxième plus grosse après Jupiter. Quoi d'autre? Faites-nous une petite carte d'identité.
La seule à avoir un système d'anneaux aussi important, et ça on ne comprend toujours pas pourquoi, c'est une planète dans laquelle on a vu des énormes tempêtes par exemple, dans le pôle Nord essentiellement, mais aussi dans le pôle Sud, des tempêtes qu'on n'arrive pas à expliquer parce qu'elles ont une forme hexagonale qu'on n'a jamais réussi à reproduire sur Terre, mais qui ont une puissance 20 000 fois supérieure à tout ce qu'on a vu comme événement sur Terre. C'est une planète qui est composée, comme toutes les planètes géantes, d'hélium en plus petite quantité, et surtout d'hydrogène. Ce sont les éléments qu'on trouve le plus couramment dans le système solaire et dans l'univers. Mais qui a aussi une chimie organique. Une chimie organique, ça veut dire des éléments comme les hydrocarbures, par exemple. On trouve aussi des nitriles, on trouve la phosphine dans l'atmosphère. Plein d'éléments extrêmement intéressants qu'on étudie du sol ou avec les missions spatiales par la méthode qu'on appelle spectroscopie. Je parle d'une méthode puisque nous sommes à l'émission de la méthode scientifique. La spectroscopie qui nous donne accès justement à la composition et à la température de toutes ces planètes et de tous ces objets.
Pour donner un peu des proportions, c'est de l'hydrogène dans une proportion écrasante, plus de 95%, un peu d'hélium à 3% et 1% d'autres éléments, c'est ça?
Le reste à l'état de trace, nous sommes essentiellement de l'hydrogène et de l'hélium, de l'eau pour nous. Donc ce sont les constituants essentiels de la nébuleuse protoplanétaire dans laquelle les planètes géantes se sont formées.
C'est une planète géante, donc quelle est ça, par rapport à la Terre
Elle est 10 fois plus grande, elle fait 60 000 km de rayon à peu près.
Mais infiniment moins dense.
Voilà, alors évidemment, elle fait un peu moins dense que l'eau.
Parce que c'est essentiellement du gaz. Les planètes géantes, ce n'est pas du tout comme les objets, les planètes terrestres. La différence, c'est qu'on n'a pas de surface. Donc, elles sont composées de gaz, en fait.
C'est-à-dire qu'il y a un continuum entre l'atmosphère extérieure et le noyau. Mais il y a malgré tout un noyau central. Voilà. Et ça reste une question dont on n'a pas tout à fait la réponse.
On ne sait pas. Et c'est pour ça qu'on va essayer de passer très près. C'est pour ça qu'on rase la planète pour avoir un peu plus d'informations sur la structure du champ de gravitation de la planète et toutes ces petites asymétries qui vont nous renseigner sur la composition du noyau central et aussi le champ magnétique, puisque tout ça prend naissance aux profondeurs, et donc on va avoir des informations sur la structure du champ magnétique aussi.
On connaît la dimension du noyau par rapport, le volume du noyau par rapport par rapport au volume général de la planète?
Non, pas exactement comme vous l'entendez. Là, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas exactement. Ce qu'il faut savoir, c'est que les planètes géantes, on les met toutes ensemble dans un groupe, mais il y a des différences énormes.
Alors, précisément, quelles sont les différences entre Saturne et Jupiter?
Alors, entre déjà Saturne et Jupiter, on trouve des différences dans la composition, on trouve des différences dans la dynamique à l'intérieur de l'atmosphère, c'est-à-dire la façon, par exemple, Jupiter, tout le monde connaît la fameuse tache rouge qui tourne et qui disparaît, apparaît, enfin qui a des effets de variation assez importantes. Sur Saturne, on voit des structures un peu plus limitées, plus concentrées. On voit aussi effectivement des manifestations de la dynamique à l'intérieur, des tempêtes, etc. On sait qu'il y a aussi des couches de nuages, mais les couches de nuages et leur composition, on pense qu'elles sont vraiment différentes de Jupiter. Et la façon de comprendre comment notre système solaire s'est formé, c'est d'essayer de comparer les deux, comprendre l'intérieur, savoir si Jupiter et Saturne ont à peu près la même structure interne, et par la suite aussi comparer avec Uranus et Neptune. N'oublions pas les deux autres planètes géantes qui, elles, sont, on les appelle des géantes de glace, par le fait qu'elles sont encore plus différentes, si l'on peut dire, par leur composition, par leur méthode sans doute de formation. Il y a une qui est couchée carrément sur le plan de l'écliptique, Uranus, et par le manque, on dirait, relatif de ce qu'on voit dans l'atmosphère comme effet de température, de tempête ou d'effet de différentes choses comme ça.
Mais elles sont beaucoup, c'est des planètes qui de l'extérieur apparaissent beaucoup plus uniformes.
Déjà, elles ont une couleur différente de par le fait qu'elles sont bleues, de la présence, ça c'est dû à la présence de méthane, plus de méthane à l'intérieur de leur atmosphère. Il y a toujours de l'hydrogène, l'hélium, mais il y a aussi beaucoup de méthane. Mais par rapport à Saturne et Jupiter, elles sont très différentes. Et une des choses aussi qu'on a apprises très récemment en ce qui concerne les planètes géantes, c'est qu'elles ont pu se déplacer, c'est la fameuse théorie de la migration, dans notre système solaire, pas se former exactement là où elles sont aujourd'hui, ce qui nous expliquerait quand même un certain nombre de choses qu'on manque plus à l'intérieur du système solaire.
Qu'est-ce qu'on sait par rapport à la température ? Alors c'est toujours difficile de parler de la température d'une planète gazeuse, mais est-ce que c'est une planète très chaude ? C'est une planète plus froide que Jupiter parce qu'elle est un peu plus loin du Soleil ? Est-ce que, par exemple, on peut définir une altitude zéro entre le moment où la température passe du positif au négatif ?
La température est essentiellement guidée par le bilan d'énergie. Évidemment, ça dépend de la distance au Soleil. Après, évidemment, on a la température effective, je pense qu'on appelle ça. Et puis après, on a évidemment dans les couches de nuages, on a des températures qui varient en fonction de l'altitude, avec une altitude qui est évidemment dans une planète qui n'a pas de sol, qui est tout à fait relative et qui est liée à un niveau de pression qui est de, je ne sais pas...
En dessous de 20 bars, vous imaginez, sur Terre, on a un bar. En dessous de 20 bars, on ne sait même pas exactement comment la température se comporte. En tout cas, on a de la condensation largement de toutes ces espèces qui se trouvent dans l'atmosphère. Et ça signifie qu'il y a formation de brumes, il y a formation de nuages, différentes couches de nuages qui sont des nuages d'eau, mais aussi des nuages de soufre, des nuages de pH3, de phosphine et de différentes autres choses. Donc cette structure, justement, nous, on n'a pas connaissance au jour d'aujourd'hui de ce qui se passe exactement en dessous, je dirais, de 1 à 5 bars. Et avec la sonde qui rentre dans l'atmosphère de Saturne et qui là, on espère qu'elle va tenir bon
le plus longtemps possible,
Et que là, si on arrive à atteindre par exemple des niveaux en dessous de 20 bars, même 20 bars, on ne sait pas du tout ce qui se passe et comment l'atmosphère se comporte. Ça, combiné avec les mesures de gravité, du champ magnétique, etc., nous donneront une meilleure idée, sans doute, de la structure interne, d'où se trouve le noyau dont vous parliez tout à l'heure, à quelle distance, quelles sont les proportions par rapport au gaz. Mais Saturne, c'est une atmosphère extrêmement importante aussi, parce que dans le voisinage, il y a d'autres objets qui ont une atmosphère importante, et on aimerait savoir comment tout le système s'est formé à partir de la nébuleuse proto-saturnienne, qui était un système en lui-même, propre à lui-même.
Ce qu'on suspecte, c'est qu'à un certain niveau de pression, l'hydrogène moléculaire se transforme en hydrogène métallique.
Oui, c'est ça.
Cécile Ferrari. Voilà,
de dissociation des protons, électrons, etc. Donc avec des comportements qui sont... je ne sais pas si on a fait beaucoup d'expériences sur le comportement de ce type de...
C'est très exotique.
Oui, c'est très exotique et on a du mal à le produire en laboratoire.
Mais c'est quelque chose que justement, il faut qu'on arrive à étudier sur place, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on arrive à reproduire très facilement en laboratoire. Mais là, on sait que cette transformation existe et que ce noyau-là est quand même très important pour la planète et on voudrait savoir comment ça fonctionne.
Parlons un peu de l'extérieur, puisque vous l'évoquiez à l'instant, Athéna Kousténis. On connaissait un certain nombre de satellites de Saturne, on connaissait Titan, son satellite qui est un satellite unique à notre connaissance dans le système solaire, mais il y en a plusieurs autres gros satellites. En fait, aujourd'hui, on en a fait à peu près le compte, il y en a plus d'une soixantaine.
63, non ? 64.
Oui.
Et là, on parle des gros cailloux.
Ça dépend où on s'arrête.
Alors, c'est plutôt Cécile Ferrari sur les satellites.
Non. Moi, j'oserais dire presque que la mission Cassini, c'était la mission des satellites et des anneaux. Enfin, j'exagère, évidemment, mais on a découvert vraiment la grande surprise de la mission Cassini, de mon point de vue. En tout cas, elle vient de tous ces mondes qu'on a vraiment précisés, découverts. Titan, n'en parlons pas.
On parle de la mission Cassini, mais c'est la mission Cassini-Huygens. Et il y avait Huygens, qui est un atterrisseur, qui s'est posé sur Titan, et on va évidemment en reparler au cours de cette
heure. Après, il y a Encelade, donc c'est le monde des océans souterrains. Donc là aussi, c'est une belle illustration de la méthode scientifique. Parce que le questionnement sur Encelade entre 1980, où on a découvert l'anneau E depuis le sol terrestre, et les questions qu'on se pose sur Encelade maintenant, sur la vie existe-t-elle au fond des océans dans ce LAN ? Il faut voir toute la progression et le questionnement scientifique qui s'est posé grâce à Cassini. On a découvert ce satellite donc au milieu de l'anneau. On s'est dit, ce satellite crée l'anneau. Certes, allons regarder de plus près. On s'est approché en 2005. On a vu CIRS, donc le spectromètre infrarouge qui mesure la température des surfaces, qui a vu un énorme point chaud au pôle sud, alors qu'on l'attendrait plutôt à l'équateur, enfin à cette époque-là, plutôt dans les zones nord, au point subsolaire. On a découvert qu'il y avait de la vapeur d'eau, on a vu des griffes du Tigre, ce qu'on appelle des grandes failles sur le pôle sud, avec un sol complètement resurfacé. On s'est dit, tiens, un point chaud avec des griffes. Là, on a vu de la glace d'eau cristalline, là, on s'est dit glace d'eau cristalline, ça veut dire que la glace et l'eau est montée en température. Donc, quelle est la source de ça? On a découvert des jets avec la caméra.
Des geysers, oui.
Et puis, du coup, on a refait des survols plus tard, en 2010, je crois, 2009-2010. On s'est aperçu, toujours avec l'instrument CIRS, qui a fait des images très, très fines, on a vu qu'il y avait donc des failles étaient chaudes, ces griffes du Tigre étaient chaudes, en fait, étaient des points chauds. On a vu des centaines de geysers sortir de ces failles. Et puis, on a suivi ça au cours du temps. Là aussi, la mission Cassini, c'est une énorme mission. Pour ça, c'est qu'on a pu voir des effets saisonniers sur 10 ans de mission. Et donc, on a vu que l'activité de ces geysers changeait en fonction du temps, en fonction de la position du satellite autour de son orbite. Donc, on s'est dit, tiens, donc ça doit être sans doute les effets de marée qui sont la source de ce phénomène-là. On est passé dans les
geysers à 25 km du sol.
On a vu des tas de particules, donc du sel, du sodium, du chlore,
des organiques.
Et donc on s'est dit des particules de silice. On s'est dit d'où ça vient-il? Ça veut dire qu'il y a en dessous de la glace, il y a de la roche, il y a sans doute une interface roche-eau.
Et des sources hydrothermales qui ont été quasiment confirmées, en tout cas sur les dernières observations qui datent de ces dernières semaines. On est quasiment sûr aujourd'hui qu'il y a une activité hydrothermale sur un plancher océanique, c'est-à-dire un contact entre la roche et l'eau, et donc, potentiellement l'apparition de molécules, pourquoi pas vivantes. C'est une hypothèse.
Il faut dire que quand on cherche ce qu'on appelle les conditions d'habitabilité dans le système solaire ou ailleurs d'ailleurs, et il nous faut trois choses essentiellement. Il faut de l'eau liquide, parce qu'on cherche bien entendu la vie comme on la connaît nous, on fait une extrapolation. Il nous faut des nutriments, ça c'est la chimie organique, c'est-à-dire des choses qu'on mange, les fameux schnapps avec du carbone, et il nous faut des sources d'énergie. Et dans le cas dans ce LAD, le bilan de la mission Cassini-Huygens, c'est qu'il y a effectivement ces trois contraintes qui existent sur place, puisque nous avons l'eau. Puisque là, on le voit vraiment, on a ces geysers qui s'éjectent à 400 km dans l'espace.
Et on va voir d'ailleurs qu'ils communiquent avec la haute atmosphère de Saturne. C'est un autre enseignement assez surprenant.
Bien sûr, parce que le système, il est tout dans ce système, est ensemble, vient ensemble. On a vu que donc il y avait forcément des poches de liquide sous la surface et assez près pour pouvoir faire des geysers. C'est pas enfoui comme pour Titan, par exemple, ou d'autres satellites. On a eu donc la chimie organique et l'eau, la vapeur d'eau, comme disait Cécile dans les données. Et on a eu aussi avec ce cryovolcanisme, c'est-à-dire que cryovolcanisme, c'est les volcans dans le système solaire externe qui éjectent non pas de la lave mais de la glace. Dans le cas de Encelade, le cryovolcanisme et les sources thermales probablement à l'intérieur nous disent qu'il y a des sources d'énergie. Donc, vous avez tout ça sur place.
On a toutes les pièces du puzzle.
On a toutes les pièces du puzzle. Non, je dirais qu'il nous en manque encore un petit peu. C'est pour ça qu'il faudra y retourner. Mais en cela, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on peut aller faire des mesures sur place. On n'a même pas besoin d'aller creuser, puisqu'on traverse avec le vaisseau spatial, avec Cassini, et on fait des mesures, on attrape des particules sur place. Et on peut les analyser en laboratoire.
La méthode scientifique, Nicolas Martin.
Il est déjà 16h24, vous écoutez la Méthode Scientifique et nous parlons de Saturne et de la mission Cassini-Huygens qui est entrée depuis quelques semaines dans sa phase terminale. Tous les mardis, Cassini, donc aujourd'hui même, là va passer pour la troisième fois entre l'anneau D, qui est l'anneau le plus proche, et l'atmosphère de Saturne jusqu'à finir, et ce sera de mémoire le 15 septembre, ou en tout cas la mi-septembre prochain, par plonger profondément dans cette atmosphère de Saturne dont on vient d'entendre que beaucoup de choses nous échappent encore. Alors on va parler précisément de toutes les choses et les enseignements sont déjà extrêmement nombreux de cette mission Cassini-Huygens qui a été lancée le 15 octobre 1997, il y a 20 ans, qui est arrivée en 2004 dans les environs de Saturne après plusieurs révolutions autour de la Terre et Vénus. C'était une sonde extrêmement lourde donc il a fallu pouvoir l'accélérer. C'est la sonde, arrêtez-moi si je me trompe, la plus lourde jamais lancée depuis la Terre.
La charge utile était assez conséquente. Et puis aussi, pour aller jusqu'à là-bas, il fallait effectivement mettre du fuel, lequel d'ailleurs n'est toujours pas épuisé. Mais bon, le choix a été fait effectivement pour la mission, pour ne pas contaminer les mondes qui sont autour, qui pourraient avoir effectivement les conditions habitables dont on parlait tout à l'heure, de la mettre dans Saturne, la faire kamikaze, comme vous disiez en début d'émission. J'aime bien cette expression, mais avant de finir sa mission, elle va nous envoyer plusieurs enseignements.
Au nombre de ces enseignements, finalement aussi un enseignement très simple, c'est que grâce à Cassini, on connaît maintenant exactement le détail et le nombre exact d'anneaux de Saturne, ce qui n'était pas le cas avant. Cécile Ferrari.
Je ne sais pas si on connaît exactement le nombre.
Peut-être pas encore tout à fait, mais il y en a toujours plus. Là, c'est très difficile. Enfin, il y en avait quatre qu'on avait répertoriés de D à A. Maintenant,
on en a trouvé d'autres qui accompagnent des petits satellites sur leur orbite. Donc, on a bien compris que le bombardement donc de météorites sur les surfaces qui n'ont pas d'atmosphère donc crée des éjectas de petites particules qui se mettent en orbite autour avec le satellite je pense que sur les anneaux, les anneaux ont un intérêt parce que on voit un disque de particules en fonctionnement et en interaction avec la planète, avec les satellites.
Qui est extrêmement fin, pareil à l'échelle cosmologique, qui est même microscopique à l'échelle cosmologique.
C'est un des objets les plus plats de l'univers. Ils font quelques mètres, je dirais, d'épaisseur sur 280 000 km de diamètre. Donc, c'est une feuille A4 d'un micron d'épaisseur. Donc, on a du mal à s'imaginer ce qu'une feuille A4. Et je pense qu'une des grandes avancées de Cassini sur les anneaux, c'est vraiment l'étude de tous les petits mécanismes qu'on a vus dans la banlieue, dans le bord extérieur des anneaux de Saturne, qui sont la découverte de ce qu'on appelle les propellers. Donc, c'est tout petit caillou de quelques kilomètres, en fait. Propellers, en français, c'est hélice. Parce que quand on les regarde dans les images, on a une forme d'hélice, en fait. Donc, c'est l'effet de ce petit caillou, en fait, sur les particules des anneaux qui sont alentours. Et on a découvert beaucoup de ces petits objets. Et on a aussi observé les interactions d'un anneau qui s'appelle l'anneau F, qui est en périphérie des anneaux principaux, avec ces deux satellites gardiens qui sont Prométhée et Pandore.
Et Pandore, oui.
Et avec Atlas aussi, qui est un petit satellite qui garde le bord extérieur des anneaux principaux. Et là, on a vu les histoires de couples, de familles, on a vu tout ce petit monde, ces petites structures vivre ensemble et se donner des particules, grossir. On a vu les petits satellites qui sont plutôt dans la zone avoir des petits bourrelets.
Petits satellites, il y en a qui sont là aussi microscopiques, qui font à peine plus de quelques kilomètres.
Voilà, donc il y a ces petits agglomérats qui ont l'air de vivre au moins 10 ans. Parce que ça peut être des agglomérats tout à fait temporaires. Dans les anneaux de Saturne, on voit des particules se mettre en petites files indiennes, s'agglomérer, s'attirer. Elles ont une attraction gravitationnelle mutuelle. Et elles forment des petits trains, comme le RER, en fait. Et ça, c'est des choses qu'on a vues grâce à la haute résolution, aux dernières images qu'on a faites. Il y a de superbes images, là, je pense qu'ils vont sortir dans pas longtemps. On voit encore plus ces petits filaments en fait, de particules qui se suivent et qui sont, bon, il y a un effet de ce qu'on appelle de rotation différentielle qui fait que ça étire la structure. Mais on a vu des tas de choses. Donc on voit dans les anneaux de Saturne des choses s'agglomérer, se défaire. Et donc pour nous, ça, c'est étudier l'agglomération de particules dans un disque. Et donc c'est aussi étudier la formation planétaire, c'est-à-dire, mais à une échelle qui est beaucoup plus petite.
Mmh. On a vu quelques-uns de ces satellites avec des formes extrêmement exotiques, de raviolis chinois. On a employé plein de termes très très voilà. bizarres et assez amusants.
Voilà, il y a des raviolis chinois, il y a des éponges, il y a tout un bestiaire, mais ça nous renseigne évidemment. Ce que j'ai trouvé étonnant, moi, en 20 ans ou 25 ans, c'est qu'on est passé de mondes vraiment tout à fait... on avait peur de s'ennuyer à regarder tous ces petits satellites. Hein. C'était, mis à part Titan, mais qui est plus gros. Parce que ce sont des mondes qui n'ont pas d'énergie, en fait, qui n'ont pas d'énergie interne, de radioactivité interne pour développer des phénomènes géologiques, etc. Mmh. Et puis, finalement, c'est aperçu que tout un chacun avait un caractère intéressant, soit en interagissant avec les uns avec les autres, soit en nous montrant effectivement des physionomies, évidemment, auxquelles on ne s'attendait pas, hein, puisque quand on fait de l'exploration, évidemment, on est toujours surpris. On a plus de questions que de réponses, en fait.
Oui, moi je trouvais ça assez extraordinaire pour les anneaux. C'était exactement les relations et les échanges entre les petits satellites et les anneaux. Parce qu'il y a quelques années encore, on ne savait pas exactement comment les divisions, les vides entre chaque anneau se formaient. Hein. Et c'est effectivement, dans la plupart des cas, des petits satellites qui, effectivement, ont piqué la matière à droite et à gauche et qui ont réussi à former des petits noyaux et puis plus tard un petit satellite. Et ça, pour moi, ça imite un petit peu la formation d'un disque protoplanétaire dans lequel on forme les planètes. Et c'est extraordinaire, c'est assez fascinant d'observer comment ça se passe là où les petits satellites se forment, puis quand la matière, puis les anneaux parfois essayent de récupérer ce qui leur a été piqué. Enfin,
ce sont des systèmes extrêmement dynamiques.
Dynamique et très ouvert, très interdépendant en fait, parce que effectivement, on peut avoir des petites particules qui elles sont sensibles au champ de gravité des satellites et de la planète, mais aussi au champ électromagnétique si elles sont chargées, etc. Donc c'est toute une dynamique très complexe. Et il y a beaucoup d'échanges de matière en fait entre ce disque, donc vers la planète, vers l'extérieur. Hein. Sébastien Charnoz a émis une théorie très intéressante sur la formation des satellites glacés de Saturne à partir des anneaux, parce que les anneaux s'étalent dans les deux sens. Vers l'extérieur, vers l'intérieur, et aurait pu nourrir finalement tout le cortège de petits satellites qu'on a à l'extérieur des anneaux de Saturne. En fait, ça, c'est des idées qui ont émergé relativement récemment grâce à Cassini.
Il reste une question fondamentale à laquelle, malgré tout, ces informations, Cassini-Huygens n'a pas encore apporté de réponse. C'est finalement pourquoi ces anneaux sont-ils là? Comment est-ce qu'ils ont été créés? Est-ce que c'est un satellite qui ne s'est pas agrégé? Est-ce que ce sont des satellites qui ne se sont pas agrégés? Ou est-ce qu'au contraire, ce seraient des satellites ou un satellite qui aurait été désagrégé à l'inverse? Pour le moment, on ne s'est pas tranché.
Le débat fait rage dans la communauté.
Quel est votre sentiment, Cécile Ferrari?
Moi, mon sentiment, c'est qu'ils sont plutôt âgés, ils sont plutôt anciens. Dans notre équipe, hein, puisqu'on est les enfants d'André Braik, et donc on a hérité aussi de ça. Sébastien Charnoz fait beaucoup dynamique de ces systèmes-là. Moi, je fais des mesures par spectroscopie infrarouge et on trouve des estimations de masse qui sont assez cohérentes et qui tendraient à montrer que la masse des anneaux de Saturne qu'on a à l'heure actuelle est la masse d'un système qui a beaucoup vieilli, qui s'est beaucoup étalé en fait. Mais il y a des gens qui pensent que les anneaux sont très jeunes parce que les anneaux sont très propres. Donc ça ne veut pas dire que plus on est vieux, plus on est sale. Mais disons que le bombardement météoritique a tendance à venir salir la glace. Et en fait, comme la glace est très propre, on pense que finalement, les anneaux sont là depuis pas très longtemps. Donc ça, c'est vraiment l'étonnant de l'origine récente. Alors récente, c'est 800 millions d'années.
Ce qui est récent à l'échelle du système solaire, qui en a 4 milliards et demi. On est en train de se faire enguirlander par un de nos auditeurs qui nous dit, et même pas un mot sur la famille Cassini. Rappelez Jean-Dominique Cassini,
bien sûr.
Le premier directeur de l'Observatoire de Paris. Mais alors, j'enjoins notre auditeur de réécouter l'émission que nous avons consacrée aux 350 ans de l'Observatoire de Paris, où nous avons largement parlé de Cassini. Et puis un mot de Huygens, qui est lui l'observateur,
le découvreur de Titan. entre autres, ouais, mais aussi pas mal des anneaux. Et ça, c'était il y a 350 ans.
Non, en 1657, 5
voilà,
par là.
Ça,
d'accord.
Là.
Voilà, le mal est, espérons-le, réparé. Parlons précisément Cassini-Huygens. Parlons donc de Huygens un peu, de cet atterrisseur. Huygens qui avait pour mission d'aller se poser sur Titan. Parlez-nous un peu de Titan. Athéna Kousténis, qui est un satellite très particulier à beaucoup d'égards.
Oui, Titan est unique. Ça, on le savait avant Cassini. On le savait parce que déjà, quand on l'a découvert, on a vu que c'était très grand. D'ailleurs, on l'appelait Titan parce qu'au départ, on croyait que c'était le plus gros satellite du système solaire. Mmh. Il a perdu sa première place pour quelques petites centaines de kilomètres face à Ganymède, qui est le plus gros satellite de Jupiter. Mais on savait qu'il était spécial parce que les premières mesures pendant la Deuxième Guerre mondiale ont montré qu'il y avait effectivement un assombrissement des bords qui s'explique par la présence d'une atmosphère. Mmh. Et ça, une atmosphère autour d'un satellite, déjà autour d'une planète terrestre, c'est-à-dire dans les planètes, dans le système solaire interne, on n'en trouve pas des favorables, disons, à la vie.
Ben, on n'en trouve qu'un, jusqu'à preuve du contraire.
Voilà, et il y a Vénus qui a une atmosphère, disons, plutôt pas très accueillante.
Assez irrespirable.
Mars a perdu son atmosphère, et puis Mercure, bien sûr, n'en a pas, on est trop près du Soleil. Mais Titan a montré qu'il avait une atmosphère, et puis avec les missions voyageurs qui sont, je voudrais dire que c'est quand même des missions assez extraordinaires qui ont été lancées en 1977, deux vaisseaux spatiaux qu'on a suivis encore il n'y a pas si longtemps que ça, à leur sortie du système solaire, ils ont continué à renvoyer des données que les scientifiques continuent d'exploiter.
On va encore se faire en guirlande, des voyageurs 2 n'est pas sorti du système solaire, il est encore à l'intérieur de l'héliopause, mais il est sorti, il a dépassé la dernière planète.
Oui, mais j'ai discuté avec des spécialistes de l'héliosphère et ils savent pas, ils sont pas tous d'accord sur où ils situent le bord. Mais enfin, cela dit, que ce soit en dehors ou à l'intérieur, ils continuaient à envoyer des données et ils continuent encore. Et c'est assez extraordinaire avec la technologie des années 60 même, de pouvoir faire ça. Et Voyager 1 a été dérouté, on savait le faire déjà à l'époque, pour aller regarder Titan de plus près parce que justement on avait vu cette atmosphère. Et là, grande surprise, on découvre que c'est pas seulement du méthane qu'on a dans l'atmosphère et quelques hydrocarbures qu'on avait vu avant, donc on a une chimie organique, mais le constituant principal c'est l'azote. Le diazote N2, comme sur Terre, avec des quantités, comme on disait tout à l'heure, assez importantes. On a 95% d'azote dans l'atmosphère, on a quelques petits pourcentages de méthane, et tout ça, ça vous fabrique ce qu'on appelle une chimie organique. Assez complexe, puisqu'on arrive jusqu'à ce qu'on appelle des molécules prébiotiques, comme par exemple l'acide cyanhydrique, HCN, ou des pH, comme le benzène par exemple, c'est-à-dire qu'on fabrique des choses assez complexes. Et c'est la seule autre chimie organique qu'on connaisse comme ça, la seule autre atmosphère assez dense, puisqu'elle est beaucoup plus dense que l'atmosphère de la Terre, elle s'étale jusqu'à 1600 km d'altitude, que on trouve où que ce soit, puisque j'allais dire dans le système solaire, mais pour le moment on n'a pas trouvé des atmosphères aussi denses et fabriquées essentiellement d'azote ailleurs. Je voulais dire pour Huygens.
Racontez-nous un peu comment s'est déroulée la mission, parce que ça aussi, ça remonte un petit peu, hein, c'est un peu plus, ça a 13 ans maintenant, mais ça a été un sacré défi technologique de poser ce petit module, d'aller déposer ce petit module dans l'atmosphère de Titan.
Je pense que les astronomes, ils sont habitués, quand ils lancent une mission spatiale, à s'attendre à ce qu'il y ait quelques hics ou que ça fonctionne tant de temps. Ou que... La mission Cassini, elle est sur place depuis 2004. Elle devait se terminer, la mission nominale, en 2008. Nous sommes en 2017, c'est-à-dire qu'on a gagné quand même 10 ans par rapport à la mission nominale. Et ça, c'est dû au fait que la mission fonctionne impeccablement bien. Mais le clou du spectacle, si je puis dire, c'était effectivement la sonde Huygens qui a été fabriquée par l'Agence spatiale européenne, qui a été donc qui est montée sur le vaisseau. Elle a été portée par Cassini jusque dans le système de Saturne et qu'on a larguée vers Titan le 25 décembre 2004 pour atterrir le 15 janvier 2005. Et à partir de là, tout a fonctionné tellement bien jusqu'au flash, jusqu'à la petite lampe, la petite ampoule qu'on avait mis à bord pour allumer dans les derniers kilomètres. Nous sommes à 10 unités astronomiques. On a à peu près 1/100 de la lumière du Soleil qui arrive sur Titan. au niveau de l'atmosphère, 10% encore de moins plus bas, c'est-à-dire on est à un millième de la lumière que vous avez sur Terre, donc il fait sombre. Par conséquent, on avait mis un petit flash à bord pour qu'on prenne les photos avec la caméra. Et là, pendant la descente, on a eu des images fabuleuses, on a récupéré plein de données. À Darmstadt, le jour de la descente, j'étais là avec Jean-Pierre Le Breton, François Rollin et d'autres collègues. Ça a été vraiment un moment assez terrifiant parce que on attend de voir la sonde envoyer le signal, tout va bien. Et puis là, on attendait.
Le délai entre l'envoi des données et la réception sur Terre.
80 minutes à peu près.
Ouais, donc c'est 80 minutes très longues.
Et encore plus longues parce que là, en l'occurrence, il y avait un des canaux qui n'avait pas fonctionné parce que il y a quand même quelque chose dans cette mission, sinon ça serait de la malchance partout, qui n'a pas marché. Et donc, on a eu encore une petite heure d'attente. Et puis après, cette heure-là, on a vu le premier signal arriver, clank. Et le project manager, le scientifique responsable de la mission, Jean-Pierre Le Breton, qui s'enthousiasme, et nous avec.
On va écouter dans un instant Jean-Pierre Le Breton, mais il faudrait consacrer une émission entière à Titan, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Il faudrait parler du fait qu'il y a du liquide à la surface, et que c'est aussi une autre exception de
Titan. Du liquide d'hydrocarbures.
Des hydrocarbures liquides.
Des lacs,
voilà,
qui sont actuellement au pôle Nord.
Voilà, qu'on a pu observer. Donc on consacrera une émission, mais l'émission c'est Saturne, donc on ne va pas faire voler la vedette à Saturne par Titan, mais juste écouter ce mot de Jean-Pierre Le Breton, c'était en 2009, c'est notre archive CNRS Images du jour.
Les explorations de Titan par Cassini-Huygens nous montrent que c'est un satellite très, très complexe et il faudra y retourner. Nous allons y retourner avec un orbiteur, donc un orbiteur qui se mettra cette fois en orbite autour de Titan et qui pourrait y rester pendant des années. Mais les éléments clés, les éléments phares de la nouvelle mission qu'on est en train de concevoir seraient une montgolfière, donc un ballon à air chaud qui se gonflerait pendant sa descente et qui flotterait ensuite à environ 10 km d'altitude et qui ferait le tour de Titan pendant plusieurs mois, peut-être même plusieurs années. Alors ça, c'est l'un des éléments phares. L'autre élément phare, c'est un petit atterrisseur, un petit Huygens en quelque sorte, qui atterrirait dans l'un des grands lacs que l'on a détecté dans les latitudes nord. Donc voilà les trois éléments d'une nouvelle mission future. Un orbiteur de Titan, une montgolfière, un ballon à air chaud et un petit atterrisseur dans un lac.
Voilà, Jean-Pierre Le Breton, le directeur de la mission Cassini-Huygens. Nous étions en 2009. Vous nous disiez à l'instant, Athéna Koustenis, que l'une des futures missions qu'évoquait Jean-Pierre Le Breton, c'était votre mission, celle de la petite montgolfière qui s'appelle Tandem, c'est ça?
La mission s'appelait Tandem pour Titan End and Celadus Mission. C'est très simple, Tandem. Et on allait en tandem, tous les Européens et les Américains ensemble, pour mettre un ballon dans l'atmosphère. Ça avait plu à pas mal de monde. Ce ballon allait juste faire le tour de l'équateur, poussé par les vents. On n'avait pas besoin d'autre chose. Et en faisant cela, il allait prendre des images du sol, parce qu'on connaissait mal encore à l'époque, et on connaît toujours très mal. Au bout de la mission Cassini, on aura vu qu'à peu près 40% de la surface de Titan au total. Et la raison pour laquelle Jean-Pierre Le Breton parlait d'un orbiteur, c'est que, je ne sais pas si les gens se rendent compte, mais on n'a jamais eu un orbiteur autour d'un satellite. On en a eu autour des planètes, mais un satellite, que ce soit Ganymède, une comète même, mais un satellite même aussi grand que Ganymède ou Titan, n'ont jamais eu un satellite dédié pour essayer de regarder de près tous les...
De regarder, de l'examiner sur toutes ces coutures.
Et un atterrisseur...
C'est le Ferrari qui a l'air de plaider pour cette option-là aussi.
C'est toujours plus loin. Hein. C'est vrai qu'on a vu, Athéna parler des missions... voyageurs qui étaient des missions d'exploration, c'est-à-dire qu'on avait des survols de quelques semaines en fait des planètes géantes, donc elles ont ouvert les portes du système solaire au-delà de Jupiter. On a vu après les missions Galileo, la mission Cassini, on est allé se mettre en orbite autour de ces grands systèmes.
Juno récemment autour de Jupiter, on avait consacré l'émission
avec donc
à cette
pour
mission.
Cassini, New Horizon. New Horizon a continué un peu la tradition des sondes voyageurs, c'est-à-dire toujours explorer plus loin.
Pluton.
Mais c'est vrai que sur les systèmes maintenant qu'on connaît, qu'on commence à connaître, on aimerait bien finalement aller plus loin sur des systèmes spécifiques comme les satellites océans ou Titan pour vraiment faire des mesures in situ.
Le problème, c'est qu'entre-temps, il y a eu Europe et Encelade, et on consacrera des émissions complètes à ces lunes glacées dans lesquelles, comme nous le disions tout à l'heure à propos d'Encelade, on suspecte qu'il pourrait peut-être y avoir l'assemblage de la vie. Mais en attendant, continuons donc à parler un peu de cette mission Cassini-Huygens. C'est des études et de nombreuses découvertes qui ont été rendues possibles grâce à cette mission. Certaines concernent le champ de la gravitation, le champ gravitationnel de la planète géante, de Saturne. Donc, bonjour Antoine Beauchamp.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
Dès qu'il est question de gravitation, vous sautez sur l'occasion. Vous êtes donc rendu à l'Observatoire de Paris pour essayer d'en comprendre un peu plus.
Oui, grâce à Valérie Lenet, qui est astronome à l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides de l'Observatoire de Paris. Avec son équipe, l'équipe Encelade, la bien nommée, Valérie Lenet a travaillé sur les effets de marée des lunes de Saturne. Petit rappel, et si on résume vraiment à la hache, je parle sous votre contrôle, mesdames, l'effet de marée est produit par l'interaction gravitationnelle qui unit deux corps célestes. Et on mesure par exemple cet effet sur Terre avec les marées quotidiennes.
Et la Lune.
Qui sont liées à l'interaction gravitationnelle entre notre planète et la Lune. Bravo Nicolas, 10 sur 10. Dans le cas de Saturne et de ses lunes, la précision et la quantité de données fournies par Cassini a permis à l'équipe de Valérie Lenet de découvrir des variations infimes du champ gravitationnel de la planète aux anneaux. Du coup, comme l'a expliqué Valérie Lenet, cette découverte pourrait, à terme, permettre d'en savoir un peu plus sur la nature et la densité du noyau interne de Saturne. Et ça, dans un futur plus ou moins proche, ça pourrait nous aider à mieux connaître les exoplanètes.
Ça, c'est un travail en réalité qui a été développé et initié depuis à peu près 7-8 ans maintenant au sein d'une équipe internationale qui s'appelle Encelade, donc que je dirige avec un certain nombre de collègues de l'Observatoire, mais également des collègues britanniques, des collègues américains et brésiliens. Et au départ, en fait, on était parti d'une idée assez simple. On sait qu'il y avait des effets de marée intenses à l'intérieur d'Encelade. Ça avait été découvert par la sonde Cassini en 2005. Et puis, on s'était amusé à essayer de voir si on pouvait voir la conséquence de ces effets de marée sur le mouvement orbital d'Encelade lui-même. Donc effectivement, vous avez du chauffage par friction à l'intérieur de la Lune, et cela va avoir des conséquences sur l'orbite. Donc on était parti de cette question finalement, assez simple en théorie. En pratique, on s'est aperçu que le signal devait être extrêmement faible, et donc on était un petit peu pessimiste. Et puis malgré tout, on s'est quand même dit, bon, essayons alors, à défaut de pouvoir quantifier ce phénomène-là, est-ce qu'on peut au moins dire quelque chose sur Saturne ? Et c'est comme ça qu'on est tombé vraiment sur quelque chose de complètement inattendu, qui était que la dissipation par marée, c'est-à-dire la friction à l'intérieur de la planète, était au moins 10 fois supérieure au maximum que l'on imaginait jusque-là.
Et pourquoi tout ça a été si surprenant et comment vous êtes arrivé à ces résultats-là ?
Alors pourquoi c'était surprenant ? Il faut quand même bien se dire que Saturne, c'est essentiellement une planète gazeuse, donc essentiellement du hydrogène, de l'hélium, et dans un gaz, on n'imagine pas qu'il y ait énormément de friction. Si on compare par exemple avec la friction qu'il peut y avoir dans la Terre elle-même, que ce soit la friction au niveau des marées océaniques, donc l'interaction entre les océans et le plancher océanique d'une part, ou même la friction dans le manteau terrestre, dans le cas d'un gaz, a priori, on imagine que les frictions vont être beaucoup plus faibles. Et donc c'est pour ça qu'en réalité, les gens ne s'attendaient pas à ce qu'il y en ait beaucoup, d'autant plus que, supposant que les lunes de Saturne avaient 4,5 milliards d'années, qui est l'âge du système solaire et donc de Saturne aussi, eh bien, ils avaient calculé que la planète, en moyenne, ne pouvait pas être très dissipative, il ne pouvait pas y avoir beaucoup de friction de Saturne, auquel cas, si ça avait été le cas, eh bien, en fait, les satellites seraient aujourd'hui beaucoup plus loin de la planète qu'on les observe aujourd'hui. Alors, parmi les 62 satellites, en fait, il n'y en a qu'une dizaine qui sont véritablement intéressants. Dans ce cas de figure-là, ce sont les satellites principaux. Ce sont des lunes pour lesquelles on sait qu'elles n'ont pas été capturées après la formation du système solaire. Ce sont vraiment des lunes que l'on imaginait, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, être né en même temps que la planète elle-même. Dans le disque qui a donné naissance à la planète, il y avait des débris de poussière, de glace, de roches qui ont créé ces lunes. Et donc, leur âge, évidemment, connaître leur âge nous donne quand même une information très forte sur leur mécanisme de formation. Il est évident que si on devait trouver que finalement ces lunes sont beaucoup plus jeunes que la planète, à ce moment-là, ça remet complètement en question leur formation.
Comment votre étude, les travaux que vous avez menés, pourraient nous en apprendre plus sur le noyau interne de Saturne ?
Alors, à la différence de Jupiter, pour lequel on n'est pas encore pleinement sûr qu'il y a vraiment un noyau à l'intérieur de la planète, pour ce qui est de Saturne, on est relativement convaincu. En revanche, on ne connaît pas tout à fait sa dimension, il y a un flou sur sa dimension. Sa composition, c'est vraiment semblablement de la glace, essentiellement de la glace d'eau et de la roche. Mais on connaît très mal sa taille, on connaît mal également ce qu'il se passe juste au-dessus du noyau. Par exemple, on envisage sérieusement qu'il y ait une couche d'hélium liquide qui soit juste au-dessus du cœur et qui proviendrait en fait de l'immiscibilité de l'hélium et de l'hydrogène à haute pression, haute température, ce qui fait que ces deux composants vont se dissocier, et donc vous allez avoir des gouttelettes d'hélium qui vont tomber au centre de Saturne, donc se répandre au-dessus du noyau. Voilà, donc ça c'est peu connu. C'est très difficile en fait de déterminer ce qu'il y a à l'intérieur. C'est toujours des mesures indirectes, que ce soit bien sûr par l'étude du champ magnétique, hein, qui est lié d'ailleurs à l'hydrogène métallique, donc on va dire la partie gazeuse, disons, de la planète. Hein. C'est pas le cœur comme la Terre. On utilise aussi le champ gravitationnel, et le fait notamment que le champ gravitationnel n'est pas constant, il varie avec le temps, parce qu'il y a des mouvements de masse à l'intérieur de la planète, parce qu'il y a des marées, parce qu'il y a tout un tas de choses, y compris certaines choses qu'on ne connaît pas, hein, aujourd'hui. Hein. Donc, eh bien, effectivement, regarder le mouvement des lunes, c'est un moyen, l'un des moyens, ce n'est pas le seul, mais c'est l'un des moyens de caractériser vraiment la présence de ce noyau, éventuellement caractériser sa taille. Et cela se fait justement par une meilleure compréhension des processus de marée.
Pourquoi ce serait aussi important que ça de découvrir finalement la nature de ce noyau-là, au-delà d'une meilleure connaissance de Saturne, mais pour une meilleure connaissance du système solaire et de sa formation?
Alors en fait, j'irais même plus loin. Je pense que vraiment l'étude de Saturne et Jupiter, qui sont deux planètes géantes gazeuses du système solaire, hein, faut vraiment les dissocier d'Uranus et Neptune, qui sont surtout des planètes géantes mais de glace. Je crois que vraiment l'intérêt, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas oublier qu'on a un peu plus de 3500 exoplanètes qui sont aujourd'hui répertoriées. Et je crois que vraiment les meilleures études de Saturne rentre complètement dans une meilleure compréhension des exoplanètes du type Saturne dans la galaxie. Et on sait qu'il y en a énormément, et ce que l'on fait systématiquement pour l'étude des systèmes exoplanétaires, c'est de prendre notre connaissance des objets du système solaire et de les plaquer sur ce que l'on voit des systèmes extrasolaires. Et donc Saturne, mieux comprendre Saturne, bien sûr, c'est déjà mieux comprendre sa formation, mieux comprendre son interaction avec ses lunes, mieux comprendre son interaction avec ses anneaux. C'est également, bien sûr, mieux comprendre la formation du système solaire, savoir comment les planètes géantes Jupiter, Saturne se sont formées, à quelle distance du Soleil se sont-elles formées, est-ce que leurs orbites ont fortement évolué au cours du temps. Et puis c'est, encore une fois, surtout plonger cela dans l'évolution, disons, des planètes en général dans la galaxie, donc que nous connaissons, donc plus de 3500. Et là, effectivement, ce voile que nous avons levé sur la structure interne de Saturne, qui vraiment est très très éloigné, en tout cas pour les marées, très éloigné de ce qu'on imaginait jusqu'à maintenant, eh bien, va avoir des répercussions très importantes pour l'étude des systèmes exoplanétaires.
Voilà le reportage d'Antoine Beauchamp, l'Observatoire de Paris, qui a déclenché de multiples conversations, un peu dissipées parfois. Athéna Koustenis, vous vouliez réagir à notamment à ces effets de marée, vous vouliez dire un mot?
Oui, juste pour dire qu'effectivement, ça dépend de la position du satellite par rapport à la grosse planète, hein, et quand Encelade est tout près. Alors que Titan a la chance de se trouver à 20 rayons saturniens, c'est-à-dire beaucoup plus loin. Et c'est pour ça que sur Encelade, on voit les effets de marée beaucoup plus intensément avec ses geysers et tout ça. Et c'est la raison aussi pour laquelle Titan a sans doute pu garder son atmosphère autour d'elle, parce que comme elle est plus loin, elle ne s'est pas bouffée tout ce qui se trouvait dans le voisinage par la grosse planète.
Mais d'ailleurs, à propos d'Encelade, un mot, on le disait tout à l'heure, il y a un échange des geysers d'eau qui passent dans la haute atmosphère de Saturne, où on retrouve des traces d'eau, ou comment ça se passe? Il y a même des influences électriques, j'ai lu, entre Encelade
on peut suivre dans la haute atmosphère de magnétosphère, en tout cas de Saturne, on peut suivre la trace, en fait la position orbitale quasiment des satellites, parce qu'on a un échange de matière par les lignes de champ magnétique en fait. Donc ça se passe aussi pour Io autour de Jupiter.
J'ai lu Cécile Ferrari à propos d'Encelade qu'il y avait effectivement un échange d'un fort courant électrique qui pourrait être à l'origine des empreintes aurorales sur le pôle nord de Saturne.
Voilà, c'est ça alimente, ça piège en fait des particules dans le champ magnétique de Saturne qui déclenche ces flashs électroluminescents, en fait, qui sont les aurores boréales qu'on observe aussi dans notre propre magnétosphère.
Vous me disiez tout à l'heure, Athéna Koustenis, hors antenne, que Saturne a sauvé Mars. Qu'est-ce que c'est que cette histoire?
Oui, justement, Valérie Lenné parlait de cette théorie de migration où les planètes ne sont pas forcément formées ou ne sont pas restées à la position originale. Et dans ce cas-là, Jupiter, par exemple, on pense qu'elle aurait pu se rapprocher beaucoup plus du Soleil, à l'instar de ce qu'on voit dans les systèmes contexte planétaire où on voit des grosses planètes géantes à côté vraiment de leur étoile. Mmh. Et ce qui a fait que il s'est arrêté quelque part, disons entre Mars et avant Mars, avant d'avoir détruit avant la ceinture des astéroïdes, c'est qu'il y avait Saturne derrière qui était aussi une grosse planète et qui jouait un petit peu le rôle de harnais là, il tirait sur la laisse
pour l'empêcher de
Jupiter. Mmh. Elle l'a empêché d'aller jusqu'à détruire Mars, qui aurait changé pas mal la donne dans le système solaire interne.
Il nous reste quelques minutes, donc oui, ça va très vite. Vous savez, c'est l'exception à la relativité générale. Dans un studio de radio, le temps se contracte. Un mot pour dire que donc la suite, c'est que Cassini va continuer à passer de manière hebdomadaire entre les anneaux et l'atmosphère jusqu'à la mi-septembre. Le grand plongeon. Un mot sur son grand plongeon. Qu'est-ce qu'on en attend, Cécile Ferrari?
On en entend de l'analyse finalement de la composition chimique, etc. Donc il faut bien comprendre aussi que la sonde va aller très très vite, hein. On est à plus de 120 000 km/h. Il va falloir réussir à tenir l'antenne pointée vers la Terre pour transmettre les données en direct. Donc il y a évidemment...
Alors qu'on se protège en même temps grâce à cette antenne pour éviter le flux de particules qui tombe dessus. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'assez délicat à mettre en place.
Mmh. Oui, donc c'est vraiment la composition chimique des nuages dans... Jusque là où on peut, en fait.
La composition, la température, c'est-à-dire la structure aussi, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on trouve à différents endroits à l'intérieur de cette atmosphère, où sont les nuages, de quoi ils sont faits, quelles sont les particules qu'on trouve à l'intérieur, et comment tout ça s'organise pour former les systèmes qu'on observe, nous, au niveau de la surface, mais qui viennent sans doute de beaucoup plus profondément. Il faudra aussi essayer d'expédier les données assez rapidement, parce que, comme dit Cécile, ça ne durera pas très longtemps, donc il faudra transmettre en même temps qu'on reçoit les données. Ça va être vraiment une manip très compliquée.
Oui,
les fusées d'appoint vont être là. On va consommer beaucoup d'hydrazine, je pense, parce que pour maintenir le pointage vers la Terre, ça va être extrêmement difficile. Donc c'est aussi une manœuvre technique tout à fait intéressante pour les ingénieurs et tout à fait fabuleuse, en fait.
Pour les anneaux, c'est assez extraordinaire ce qu'on va faire avec ces plongeons à travers la...
Voilà aussi, donc un des enjeux... On voit bien avec l'interview de Valérie Lenné aussi l'intérêt de connaître la structure interne, parce qu'on voit bien que toute l'histoire, ou tout ce qu'on peut dire sur l'histoire des anneaux et des satellites dépend aussi de ce qui se passe à l'intérieur de Saturne. Mmh. Et on va aussi, c'est vrai, en passant tout près de la planète, on va pouvoir peser les anneaux, parce qu'on ne connaît pas la masse des anneaux de Saturne. Et donc en mesurant le champ de gravité à cet endroit-là, là, on va avoir une idée de cette masse, de leur âge.
Et ce qui devrait nous renseigner aussi un peu sur leur composition.
Sur leur composition. Mmh. Donc il y a encore beaucoup de choses importantes à faire d'ici la fin de la mission.
Et après Cassini, que se passe-t-il? Est-ce que maintenant tous les efforts sont concentrés, comme on le disait tout à l'heure, vers Encelade, vers Europe autour de Jupiter? Est-ce que l'attrait de ces satellites glacés et de la possibilité d'héberger peut-être de la vie dans leur océan souterrain a absorbé finalement tout l'intérêt qu'on pouvait avoir pour le reste, pour ces planètes ou pour le reste de leur système?
Non, il y a plusieurs propositions aux agences spatiales, et notamment à l'Agence spatiale européenne, et aussi à la NASA, pour, par exemple, envoyer une sonde dans Saturne, dans un avenir pas très très lointain, parce que là, en fait, on se sert de Cassini comme sonde. C'est comme si on avait une deuxième mission, parce qu'on va lancer Cassini dans Saturne et en faire une sonde... un star sans plein gré, mais en même temps, c'est pas une vraie sonde, c'est-à-dire qu'il n'y a pas exactement les instruments qu'on voudrait à bord pour faire toutes les mesures qu'on souhaiterait. Donc, il y a des propositions pour faire une sonde vers Saturne. Il y a aussi plein de propositions pour retourner sur Titan et Encelade. Comme je le disais tout à l'heure, un orbiteur autour d'un satellite, c'est quelque chose qui nous permettra de mieux connaître ces objets, mais vraiment de très près. Atterrir sur Titan, on a atterri avec Huygens, qui est un vaisseau extraordinaire, mais si on atterrit à un seul endroit, imaginez qu'un vaisseau spatial alien vienne sur Terre et qu'il atterrisse à, je sais pas moi, sur une autoroute, il n'aura jamais vu les forêts, donc on va aller voir l'autre face de Titan et dans cela aussi voir les variations dont on parlait tout à l'heure dans les geysers, voir comment ça se comporte. Il y a plein de choses à faire dans le système de Saturne et je suis contente de voir qu'il y a plein d'idées qui sont proposées actuellement.
On parle de drones sur Titan.
Ferrari.
On parle de drones.
On parle de l'exploration de Titan. temps en drone, je crois.
Et en avion aussi, parce que c'est une atmosphère, tout ce qui est ballon, avion, drone, etc., comme c'est une atmosphère dense, on peut mettre des objets comme ça.
On peut laisser des gens, des objets flotter dans l'atmosphère. Eh bien écoutez, on aura l'occasion de refaire des émissions pour parler, comme on l'a entendu, de Saturne, de ses anneaux et de ses multiples satellites, parce qu'il y a beaucoup à dire, il y a encore beaucoup à apprendre. La fin, certainement, de la mission Cassini mi-septembre nous donnera l'occasion de reparler de tout ça et de savoir ce que la sonde, dans son dernier mouvement kamikaze, nous aura appris. Mille merci à vous deux, Cécile Ferrari, merci Athéna Koustenis d'avoir accepté notre invitation. Un mot pour vous dire que la semaine prochaine, eh bien lundi et mardi prochain, allez, on révise tous les maths, la physique, la chimie, la SVT, l'informatique, les sciences de l'ingénieur. Venez donc réviser avec nous les 15 et 16 mai. Si vous êtes lycéen, si vous êtes prof d'une classe de lycée scientifique, vous pouvez venir assister aux émissions spéciales que nous consacrons aux révisions du bac en nous envoyant un mail à ce mail, lamethode@radiofrance.com. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Mathieu Lefrançois, Céline Lozen, Antoine Beauchamp, Noémie Aguette, Saint-Villefranc, Eve Etienne, Elisabeth Miro à la réalisation, Clément Daté à la technique et Raphaël Bézikian au droit d'auteur. Demain, nous enfilerons la blouse ou pas d'ailleurs pour aller passer une heure dans les Fab Labs, ces laboratoires libres qui font de leur recherche sur le partage, l'open source et l'accès libre à la connaissance. Tout de suite, Président de la République sous LSD, la série documentaire. Nous, on se retrouve demain à 16h jusqu'à preuve du contraire.